Chapitre 9. Abus de la liberté en tombant personnellement. Après avoir maintenu au chapitre 8 la liberté du croyant de faire usage des viandes et nous avoir mis en garde contre le danger d'en abuser, dans ce chapitre 9, l'apôtre continue en nous parlant de la liberté et des droits des serviteurs du Seigneur et il nous met de nouveau en garde contre tout abus de ces privilèges. Mais tout en établissant les droits des serviteurs du Seigneur dans ces questions, il établit le principe important que ces droits sont subordonnés aux intérêts de Christ et des siens et ne sont pas là pour se glorifier ou pour satisfaire le corps. Versets 1 et 2. Citation de l'Écriture. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas, vous, mon ouvrage dans le Seigneur? Si je ne suis pas apôtre pour d'autres, je le suis pour vous du moins, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Fin de citation. Nous savons par la seconde épître que certains mettaient en doute l'apostolat de Paul. Il commence donc cette partie de sa lettre en affirmant brièvement son apostolat ainsi que sa liberté. Il avait la marque extraordinaire d'un apôtre en ce qu'il avait vu Jésus notre Seigneur. Par ailleurs, comment les Corinthiens pouvaient-ils avoir aucun doute quant à son apostolat, puisque eux-mêmes en étaient le sceau et la preuve, car leur existence comme assemblée était le résultat de son ouvrage dans le Seigneur. Il y en avait qui, par jalousie à l'égard de l'apôtre, étaient prêts à suggérer qu'il prêchait pour des motifs intéressés, cherchant à tirer un gain de son service. 2 Corinthiens 11, versets 9 à 12. L'apôtre répond à de telles suggestions, d'abord en affirmant les droits du serviteur, versets 3 à 14, et ensuite en montrant comment il avait utilisé ses droits, versets 15 à 27. Versets 3 à 7. Citation de l'Écriture. C'est ici ma défense auprès de ceux qui m'interrogent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme femme? Comme font aussi les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas. N'y a-t-il que moi et Barnabas qui n'ayons pas le droit de ne pas travailler? Qui va jamais à la guerre à ses propres dépens? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Ou qui paie un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Fin de citation. Quant au droit comme serviteur du Seigneur, Paul ainsi que les autres apôtres avait parfaitement le droit d'avoir sa part des grâces ordinaires de la vie présente, le droit de manger et de boire, verset 4, le droit de mener une sœur comme femme, verset 5, le droit de ne pas travailler de ses propres mains, verset 6. En outre, il avait le droit de recevoir de l'aide dans les choses charnelles en contrepartie de son ministère dans les choses spirituelles. Qu'il en soit ainsi, la nature et le bon sens le montraient, car, demande l'apôtre, qui va jamais à la guerre à ses propres dépens? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui paie un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Versets 8 à 11. Citation de l'Écriture. Est-ce que je dis ces choses selon l'homme? Ou la loi aussi, ne dit-elle pas ces choses? Car dans la loi de Moïse, il est écrit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain ». Dieu s'occupe-t-il des bœufs? Ou parle-t-il entièrement pour nous? Car c'est pour nous que cela est écrit, que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain doit le fouler dans l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé pour vous des biens spirituels, est-ce beaucoup que nous moissonnions de vos biens charnels? Fin de citation. En outre, non seulement la nature, mais l'Écriture aussi affirme ses droits. Car dans la loi de Moïse, il est écrit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain ». En parlant ainsi, Dieu ne pense pas seulement au bœuf. C'est écrit pour nous enseigner que si celui qui laboure et celui qui foule le grain profitent de leurs travaux, de même les serviteurs du Seigneur, s'ils ont semé des biens spirituels, ont parfaitement le droit de recevoir en retour des biens charnels. Verset 12. Citation de l'Écriture. Si d'autres ont part à ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas bien plus? Mais nous n'avons pas usé de ce droit, mais nous supportons tout, afin de ne mettre aucun obstacle à l'évangile du Christ. Fin de citation. Si d'autres se prévalaient de ce droit, pour prendre de leurs choses charnelles, combien plus l'apôtre le pouvait, lui qui les avait servis si fidèlement. S'il s'était abstenu de prendre de leurs choses charnelles, ce n'était pas une preuve qu'il n'était pas apôtre, ni qu'il n'avait pas le droit de recevoir quelque chose de leur part, mais plutôt qu'il jugeait, dans leur cas, que les intérêts de l'évangile de Christ étaient mieux servis par le fait de tout supporter, plutôt que de prendre de leurs biens charnels. Dans son service, l'apôtre n'était pas gouverné par la pensée du gain, mais par les intérêts de Christ et de son évangile. Versets 13 et 14. Citation de l'Écriture. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient aux choses sacrées mangent de ce qui vient du temple, que ceux qui servent à l'autel ont leur part de l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Fin de citation. Néanmoins, les droits du serviteur demeuraient, selon l'enseignement des types, en rapport avec le service du temple et de l'autel. Par-dessus tout, l'apôtre affirme que ces droits sont conformes à ce que le Seigneur a ordonné, que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Que ce soit la nature, verset 7, ou l'Écriture, verset 9 à 10, ou l'ordonnance directe du Seigneur, verset 13 à 14, tout concourt à maintenir les droits de recevoir les biens charnels des saints pour le serviteur qui sert dans les biens spirituels. Verset 15. Citation de l'Écriture. Mais moi, je n'ai usé d'aucune de ces choses, et je n'ai pas écrit ceci afin qu'il en soit fait ainsi à mon égard, car il serait bon pour moi de mourir, plutôt que de voir quelqu'un anéantir ma gloire. Fin de citation. Ayant soigneusement affirmé les droits du serviteur, l'apôtre, dans les derniers versets du chapitre, montre comment il avait personnellement utilisé ses droits dans l'assemblée à Corinthe. Il les avait tournés en une occasion de se sacrifier lui-même pour les intérêts de Christ et de son évangile. Comme quelqu'un l'a dit, ce privilège est transformé dans ses mains en un tout autre type de privilège, le privilège de se sacrifier pour Christ et pour son service. Il renonçait à un privilège pour jouir d'un privilège supérieur. Il peut donc dire « Mais moi, je n'ai usé d'aucune de ces choses ». Il n'a pas non plus écrit cette lettre pour leur demander une aide dans les choses temporelles. Il ne voulait pas recevoir de l'aide de leur part et permettre ainsi à quelqu'un d'anéantir sa gloire à cet égard. Versets 16 et 17. Citation de l'Écriture. Car si j'évangélise, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Car malheur à moi si je n'évangélise pas. Car si je fais cela volontairement, j'en ai un salaire, mais si c'est malgré moi, une administration m'est confiée. » Fin de citation. Cependant, s'il parle de se glorifier, il prend tout de suite soin de préciser qu'il ne cherchait pas à se glorifier de ce qu'il prêchait l'Évangile, mais de ce qu'il l'avait fait gratuitement. Une administration lui avait été confiée de prêcher et, qu'il le fasse de bon gré ou non, il était responsable d'effectuer le travail qui lui était confié. Sa récompense ne serait pas pour avoir fait le travail qui lui était confié, mais pour l'avoir fait volontairement. Verset 18. Citation de l'Écriture. C'est que, en évangélisant, je rends l'Évangile exempt de frais, pour ne pas user comme d'une chose à moi de mon droit dans l'Évangile. Fin de citation. Quelle était donc sa récompense? C'est qu'en prêchant l'Évangile, il renonçait à ses droits, de sorte que l'Évangile pouvait être exempt de frais. Il n'utilisait pas ses droits comme lui appartenant pour les utiliser selon sa propre volonté, sans égard aux directions du Seigneur. L'apôtre était envoyé par le Seigneur pour prêcher, et selon l'ordre du Seigneur, il avait le droit d'être pris en charge. Pourtant, il ne fait pas usage de ce droit, comme s'il en avait la libre disposition, à son gré. Il pensait à Christ et à sa gloire, et ainsi il usait ou s'abstenait d'user de ce droit selon l'estimation qu'il avait de la pensée du Seigneur, exécutant son service de la manière la meilleure pour la gloire de Christ. Versets 19 à 23. Citation de l'Écriture. Car étant libre à l'égard de tous, je me suis asservi à tous afin de gagner le plus de gens. Et pour les Juifs, Je suis devenu comme juif, afin de gagner les juifs. Pour ceux qui étaient sous la loi, comme si j'étais sous la loi, n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi. Pour ceux qui étaient sans loi, comme si j'étais sans loi, non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ, afin de gagner ceux qui étaient sans loi. Je suis devenu pour les faibles comme faible, afin de gagner les faibles. Je suis devenu toute chose pour tous, afin que de toute manière j'en sauve quelques-uns. Et je fais toute chose à cause de l'Évangile, afin que je sois coparticipant avec lui. Fin de citation. Étant ainsi entièrement libre à l'égard de tous, il utilisait sa liberté pour devenir le serviteur de tous. Lorsqu'il prêchait aux Juifs, il pouvait les rencontrer sur leur propre terrain, il s'adaptait à leur mode de pensée et évitait de blesser leurs scrupules. Avec ceux sous la loi, il faisait appel à eux comme entrant dans tous leurs exercices de gens sous la loi, mais il a soin d'ajouter « n'étant pas moi-même sous la loi ». Quant à ceux qui étaient sans loi, il faisait appel à eux sur leur terrain, mais, encore une fois, en prenant la précaution de dire « non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ ». Pour les faibles, il pouvait devenir comme un faible. Il se faisait tout à tous, afin que de toute manière il puisse en sauver quelques-uns. En outre, il agissait ainsi pour l'amour de l'Évangile qu'il personnifie en disant « afin que je sois coparticipant avec lui ». Versets 24 à 27. L'apôtre ne s'accommodait pas au monde. Le service est un chemin d'abnégation. Citation de l'Écriture. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul reçoit le prix? Courez de telle manière que vous le remportiez. Or, quiconque combat dans l'arène vit de régime en toute chose, eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous, afin d'en recevoir une incorruptible. Moi donc, je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but, je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Fin de citation. Il ne faut pas déduire de ces expressions de l'apôtre qu'il s'accommodait au monde pour échapper à l'opprobre et épargner la chair. Pour dissiper tout malentendu, l'apôtre montre, dans les derniers versets de ce chapitre, que le chemin du service est un chemin d'abnégation. Il y a, en effet, une récompense pour le service, bien meilleure que le prix obtenu dans les jeux du monde. Là, les gens courent pour une couronne corruptible, mais le chrétien pour une couronne incorruptible. Néanmoins, si obtenir une couronne terrestre exige une vie de sobriété, combien plus nécessaire est la sobriété en toute chose pour obtenir une couronne incorruptible? L'apôtre courait sa course sans incertitude quant à la fin glorieuse du chemin. Le combat n'était pas pour lui du badinage, comme s'il battait l'air. Il prenait soin de ne pas satisfaire le corps, mais plutôt de le garder assujetti, de le mortifier, afin qu'il n'entrave en rien son service. Les saints à Corinthe se vantaient de leurs dons et recherchaient leurs aises. Gardons-nous de prêcher sans que la pratique suive, car l'apôtre nous avertit qu'il est possible de prêcher et pourtant d'être réprouvé. Nous savons que le croyant ne périra jamais. L'apôtre ne dit pas qu'il est possible d'être né de nouveau ou converti et d'être quand même réprouvé. Mais prêcher aux autres n'est pas tout. Nous devons d'abord être chrétiens et ensuite prédicateurs, pour autant que le Seigneur nous y appelle.